passe le micro à Hans-Rudi Weber, qui est le président de l'association Modern Money et qui est le papa de l'initiative Money Play.
Bonjour ensemble et merci pour
l'invitation.
Oui. Excusez mon français. Où en est l'initiative Monnaie Pleine aujourd'hui? Malgré 3 ans de travail éducatif, la plupart des gens pensent encore que notre système monétaire fonctionne déjà comme il fonctionnerait avec l'adoption de l'initiative Monnaie Pleine, à savoir que notre argent est créé par la Banque nationale. Ils pensent que nous avons déjà une sorte de système Monnaie Pleine, et parce qu'ils trouvent ça bien, sans savoir qu'ils se trompent, ils se satisfont de la situation actuelle. Pourquoi devrait-on changer quand on est satisfait? Pourtant, la réalité est tout à fait différente et très dangereuse. Les banques ont détourné la règle monétaire constitutionnelle avec de la pseudo-monnaie qu'elles créent elles-mêmes. À la place de notre moyen de paiement légal, elles ont imposé leur fake money à l'économie et à l'État, rendant la société entière totalement dépendante d'elle. Toutefois, depuis la crise financière de 2008, leur toute puissance en a pris un coup, raison par laquelle elles se défendent par tous les moyens contre l'initiative Monnaie Pleine. Mais quel que soit le résultat du vote, le temps des banques qui produisent de l'argent touche à son terme. Les banques d'aujourd'hui sont superflues. Presque toute la monnaie en circulation est aujourd'hui un substitut inutile de l'argent qu'on appelle monnaie scripturale. Cette monnaie consiste en de simples écritures par lesquelles les banques promettent de livrer une chose que l'État ou la Banque nationale produit, à savoir un moyen de paiement légal. Mais il n'y a aucune raison sensée pour que la Banque nationale ne livre pas directement elle-même cet argent, comme exige en fait notre Constitution. Tout le monde a besoin de moyens de paiement, sans quoi l'accès du marché au marché, c'est-à-dire la condition pour vivre, pour pouvoir vivre, est impossible. Aujourd'hui, des entreprises privées à but lucratif créent leurs propres moyens de paiement en pouvant décider qui en reçoit, combien, pourquoi et à quelles conditions. Si elles ne font pas de profit, elles ne font pas de crédit. Elles sans crédit, pas d'argent. Ainsi, elles rendent tous les autres acteurs du marché, c'est-à-dire les entreprises, les ménages et l'État, dépendants de leurs moyens de paiement et de leurs exigences de profit. L'argent gouverne le monde, les gens, le marché, l'État. La monnaie pleine étatique rendrait cette plutocratie inutile. Ces dernières années, non seulement la digitalisation a rendu inutile des milliers d'emplois dans le secteur financier en automatisant les opérations de paiement, le système de crédit et la gestion des actifs, Mais tôt ou tard, les monnaies cryptographiques rendront également les banques conventionnelles encore plus inutiles. Alors qu'en fait, une monnaie d'État, même cryptographique, ne menacerait pas les activités bancaires traditionnelles, mais au contraire, les sauverait. Le système bancaire d'aujourd'hui est trop coûteux. De nos jours, l'argent est de la monnaie fiduciaire, de l'argent dit ex nihilo. Cela signifie qu'en principe, n'importe qui peut, n'importe quand, n'importe où, rendre disponible n'importe quelle somme d'argent gratuitement. Il n'y a donc aucune justification pour que l'argent soit généré sous forme de dette et chargé d'intérêts. Pourtant, toute la monnaie en circulation, à l'exception des pièces de monnaie, est aujourd'hui constituée de dettes. Lorsque la totalité de l'argent est constituée de dettes, pour rembourser une dette, il faut forcément générer une nouvelle dette, avec la conséquence que, dans le système actuel, les dettes doivent constamment augmenter et ne peuvent jamais être remboursées. L'accroissement des dettes signifie l'accroissement des fortunes parce que l'intérêt de la dette coule toujours des plus pauvres vers les plus riches. L'inégalité et la division de la société s'accentuent. De plus, tant que l'argent sera créé par la dette, aucun seigneurage, c'est-à-dire aucun gain provenant de la création originaire d'argent, ne sera possible. L'économie et l'État qui auraient légalement droit à ce seigneurage sont contraints d'y renoncer. Les médias rendent compte tous les jours des dernières affaires pénales dans lesquelles les banques sont impliquées. Les dernières années, par exemple, les banques suisses ont dû payer environ 50 milliards d'amendes, dont les plus importantes ont été payées par UBS SCS. Et jusqu'à récemment, elles pouvaient même déduire ces amendes de leurs impôts. Le système bancaire et financier d'aujourd'hui est extrêmement dangereux. Ce danger se résume en quelques mots. L'argent d'aujourd'hui ruine le monde. Parce qu'avec l'argent dette, le système monétaire oblige à une croissance exponentielle qui, tôt ou tard, conduira inévitablement à l'effondrement. Alors, que chaque enfant comprend que croissance sans fin dans un monde limité conduit au désastre, nos experts financiers continuent de miser sur la croissance monétaire. Afin de retarder le plus possible le crash, ils inventent des instruments tels que les produits dérivés et les assouplissements quantitatifs qui ne font qu'amplifier la croissance des bulles financières mondiales et les montagnes de dettes. Pourtant, les conséquences pour l'homme et la nature, ainsi que pour la démocratie et l'État, sont fatales. Tout est soumis à la concurrence mondiale et à la dictature des marchés financiers. La morale de l'histoire. L'une des principes pâle cause de toute cette misère est la création quasi illimitée d'argent scriptural par les banques. Elle est basée sur un mensonge social, enveloppé dans un contrat. Une banque demande à l'emprunteur de rembourser une somme d'argent qu'elle n'a pas, mais qu'en même temps, elle lui doit. Cette dette bancaire est le compte courant de l'emprunteur qu'il a lui-même rendu possible avec sa promesse de remboursement et avec lequel il peut faire ses paiements. L'emprunteur est donc, sans le savoir, son propre prêteur. Il s'agit d'un simple processus de comptabilité dans lequel aucun fonds propre de la banque n'est impliqué. Pour qu'il y ait crédit, selon le droit, le prêteur doit prêter des moyens qu'il possède. Étant donné que la banque ne prête aucun moyen en sa possession, le crédit supposé n'est qu'une tromperie. La banque agit comme si elle prêtait des fonds qu'elle possédait et elle en déduit le droit d'exiger le remboursement et les intérêts. Résumé, les banques imposent au public, aux citoyens, à l'économie, à l'État, leur monnaie de pseudo-crédit autogénérée, en détournant la règle monétaire et en violant la Constitution, en nous faisant croire que l'argent bancaire est constitué de francs suisses, en utilisant leur crédit fictif comme des instruments de domination. Ainsi, ils construisent une plutocratie et nous rendent tout dépendants d'elle, en sapant l'autonomie des citoyens, en castrant l'État de sa souveraineté, en faussant la loi de l'offre et de la demande. La monnaie pleine libère les gens, l'État et le marché de la dictature de l'argent bancaire.
Merci beaucoup, Antrudy Weber, pour cette allocution très touchante et très vraie. Maintenant, nous allons avoir la vision académique de Philippe Mastronardi, qui est professeur de droit émérite à l'Université de Saint-Gall et qui est le principal rédacteur de l'initiative Monnaie pleine. Merci.
Mesdames et messieurs, je ne suis pas bilingue, alors je lis mon texte préparé. Laissez-moi rappeler d'abord les deux buts principaux de l'initiative Monnaie pleine. Premier but, la création de notre monnaie suisse doit être la tâche de la Confédération. Deuxième but, le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit sont des prestations d'intérêt public. Dès lors, elles prennent le caractère d'un service public à délivrer par les banques. J'explique le premier but. L'initiative vise à une répartition claire des compétences entre la Banque nationale et les banques privées. La Banque nationale détermine la masse monétaire suisse sur la base de lois démocratiques. Les banques distribuent cette masse selon les lois du marché. L'État définit les règles auxquelles le marché doit obéir. Les banques jouent leur jeu librement dans le cadre de ces règles. Ainsi, nous suivons les principes libéraux de notre Constitution. Les institutions d'intérêt public sont garanties par l'État. Dans les limites de ces institutions, les privés jouissent de la faculté de poursuivre leurs intérêts privés. L'initiative ne fait que rétablir le juste ordre des choses violées jusqu'ici par le système monétaire. Car aujourd'hui, les banques profitent du privilège des joueurs d'être en même temps joueurs et juges de jeu. Comme si l'un des joueurs d'une partie de Marelle Lassise pouvait changer le nombre de ses pièces, alors que les autres joueurs ne pouvaient pas le faire. Le deuxième but est lié au premier. Puisque l'argent est une condition préalable de notre économie moderne, ces deux fonctions irréductibles doivent être garanties en tant que service public. Il est d'un intérêt primordial que le trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit soient garantis par l'État. Le service lui-même reste une prestation des banques privées. Mais celles-ci doivent agir dans l'intérêt public, défini par la loi et par la Banque nationale. Pour ces deux fonctions, et pour empêcher des abus, la Banque nationale doit jouir d'une compétence dirigeante envers le système bancaire. Dans les domaines où l'intérêt public l'exige, les banques doivent exercer un service public. Pour le reste de leurs activités, elles sont libres d'agir à leur propre risque. Pour aboutir à cette solution, pourquoi faut-il modifier notre Constitution? La Constitution actuellement en vigueur dispose dans son article 94 que les dérogations au principe de la liberté économique ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale elle-même. C'est ainsi que notre loi fondamentale garantit le principe du marché libre. L'État n'a en principe que des fonctions de police envers l'économie. En dehors des monopoles qui lui sont attribués, il n'a pas de pouvoir dirigeant. Et l'article 99 ne constitue un tel monopole que pour le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque. La monnaie scripturale n'est pas mentionnée. 1891, ce n'était pas encore nécessaire. Dès lors, la monnaie scripturale reste l'affaire du marché, voire des banques. Si on veut changer ce partage de pouvoir, il faut modifier la Constitution. Le texte de l'initiative formule les deux principaux buts de la manière suivante. Premièrement, la Confédération seule émet la monnaie, les billets de banque et la monnaie scripturale comme moyen de paiement légaux. Cette disposition change le caractère de nos comptes de paiement. Aujourd'hui, ces comptes ne sont qu'une promesse de notre banque, dont la valeur dépend de la santé de la banque. Désormais, nos comptes de paiement seront garantis par la Banque nationale, tout comme la monnaie et les billets de banque. Deuxièmement, la Confédération garantit l'approvisionnement de l'économie en argent et en services financiers. Le nouveau texte constitutionnel donne aux banques la tâche d'un service public. Pour assurer la réalisation de ces buts, la Banque nationale reçoit les compétences nécessaires. La Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l'approvisionnement de l'économie en crédit par les prestataires de services financiers, à savoir les banques. Notre Banque centrale reçoit donc une légitimation constitutionnelle pour assurer que les services financiers bénéficient à la société. Elle gardera tous ses instruments actuels. En plus, elle pourra influencer directement la qualité de monnaie et de crédit nécessaires à l'économie suisse. Il est vrai que ces dispositions donnent à la Banque nationale un pouvoir supplémentaire, un pouvoir dont jouissent actuellement les banques. L'initiative vise à un nouveau partage de pouvoir dans le marché financier. Nous transférons une partie du pouvoir des banques privées à la banque centrale. Ne nous trompons pas. L'argent, c'est toujours un pouvoir. Nous ne pouvons pas éliminer cette relation entre argent et pouvoir. Nous pouvons seulement distribuer ce pouvoir d'une manière plus équitable. Voulez-vous que l'accroissement de la masse de notre argent dépende des banquiers qui profitent de cet accroissement en faisant des bénéfices proportionnels à cet accroissement, des bonis, ou par des fonctionnaires qui n'en tirent aucun profit? L'intérêt public serait-il mieux servi par les uns que par les autres? Nous pensons qu'une institution publique est mieux à même de servir l'intérêt public qu'une entreprise privée. Merci de votre applaudissement, mais il y a une condition. Ce n'est pas toujours le cas. Pas tout ce que l'État fait est mieux. Nous sommes très critiques aussi envers l'État. Il y a une condition véritablement importante. La Banque nationale doit jouir d'une indépendance garantie par la Constitution. C'est pourquoi l'article 99A, alinéa 6, prévoit: dans l'accomplissement de ses tâches, la Banque nationale n'est tenue que par la loi. La Banque centrale jouit donc de la même indépendance que qui ?
Que le tribunal fédéral.
Son indépendance est ainsi protégée de l'influence du Conseil fédéral, de la politique et des affaires. Seule la loi générale pourra définir les compétences de notre Banque centrale. Les intérêts actuels politiques ou économiques n'auront pas de pouvoir sur la politique financière de la Banque nationale. Les besoins fiscaux de la Confédération ou les intérêts particuliers des partis, voire des secteurs économiques, ne pourront pas exercer leur influence sur la politique monétaire de la Banque nationale. Celle-ci ne dépendra que de son mandat constitutionnel et législatif. En outre, elle sera organisée par la loi de la façon à garantir un équilibre politique et les membres de son conseil administratif seront probablement élus par le Parlement, tout comme les juges fédéraux. La loi sur la Banque nationale devra organiser le pouvoir de cette institution de façon à justifier la confiance dont elle devra jouir. Avec l'initiative Monnaie pleine, le pouvoir financier sera soumis au contrôle démocratique et non plus à l'arbitraire des banques qui règnent dans le système actuel. Les dispositions constitutionnelles de l'initiative permettent de créer l'équilibre nécessaire entre l'autonomie et la responsabilité démocratique de notre banque centrale. Maintenant, parfois, on nous reproche de ne pas dire tout ce qu'on aurait pu dire. Ce que la loi sur la Banque nationale devra encore concrétiser. Mais si nous avions mis tout ça dans la Constitution, on nous aurait reproché de faire une loi au lieu d'une Constitution. Alors on peut dire ceci ou cela, nous avons trouvé un juste milieu de concrétisation pour garantir que le but principal soit contraignant et de laisser à la démocratie la possibilité de trouver les meilleurs instruments. C'est la répartition entre constitution et législation tout à fait traditionnelle que nous connaissons bien. Alors permettez-moi quand même de corriger quelques malentendus. Je m'adresse indirectement peut-être un peu à un des orateurs plus tard. Il y a des connaissances très profondes de la Banque nationale. Messieurs, dames, premièrement, il n'y aura pas de restriction d'offre de crédit. Dans un système de monnaie pleine, la monnaie ne sera plus une dette. Elle sera le moyen avec lequel une dette pourra être payée. Plus une dette, mais un moyen de paiement, de se délivrer d'une dette. Elle sera le moyen avec lequel une dette pourra être payée, et ça veut dire que les banques pourront se procurer ce moyen auprès des clients ou de la Banque nationale. Le prix de ce moyen sera réglé par le marché et par la Banque nationale, comme aujourd'hui aussi. Celle-ci pourra varier l'intérêt sur les crédits aux banques selon les besoins du marché. Elle veillera à ce qu'il n'y ait ni pénurie ni pléthore de monnaie. C'est écrit dans notre constitution comme nous la proposons. Dès lors, toute crainte d'une restriction du crédit est infondée. Deuxièmement, il est vrai que l'initiative vise à empêcher et ne vise à empêcher toute crise monétaire, mais elle constitue la base de tout effort dans ce but. Ce qu'elle fait, c'est de réduire les effets d'une telle crise. Alors que le système actuel fait disparaître notre argent en temps de crise, le système monnaie pleine sauve notre argent même lorsque les banques ne fonctionnent plus. Troisièmement, il n'est pas vrai que le nouveau système soit dangereux. La monnaie pleine sera aussi sûre que nos billets de banque actuels, donc beaucoup plus sûre que les promesses actuelles des banques. Mesdames et messieurs, c'est le système actuel qui est dangereux. La difficulté réside à comprendre le système actuel, qui est très compliqué, pendant que le nouveau système sera très simple. Quatrièmement, une politisation de la Banque nationale est empêchée par son autonomie garantie par la nouvelle Constitution, je viens de le dire. Personne ne pourra demander à la Banque nationale de créer des billets électroniques en sa faveur. Tout comme cela est exclu aujourd'hui pour les billets papier. J'arrive à ma conclusion. L'argent constitue une infrastructure de l'économie. Il est une condition préalable du marché et non un objet de ce marché. Il n'est pas une pièce du jeu, mais il établit les règles de ce jeu. Comme le mètre, le kilo, et d'autres mesures qui sont fixées par les États, même internationalement. La monnaie est une mesure et pas une valeur. Nous devons restituer à l'État le monopole de créer la monnaie. Nous voulons rétablir l'ordre des choses que la plupart de nos citoyens pensent être déjà en vigueur. Les banques doivent avoir le mandat de fournir un service à l'économie entière. L'initiative Monnaie pleine vise à baser notre économie sur un système monétaire équitable. C'est le système actuel qui est injuste. Les banques jouissent d'un double privilège. Tout d'abord, elles travaillent avec de l'argent qu'elles ont créé elles-mêmes. L'État leur a cédé la plus grande partie de son monopole de création monétaire. Ce faisant, il donne certaines entreprises un privilège qu'ils refusent aux autres. En plus, l'État prend le risque des banques à sa charge. Ainsi, il soutient une manière d'agir irresponsable. Tant que le système monétaire actuel continuera, les banques ne devront pas apprendre à agir autrement. Seules sur un régime de monnaie pleine, les banques seront traitées à l'égal des autres entreprises. Elles aussi devront se procurer leur argent auprès de tierces personnes. Elles ne pourront faire ce que beaucoup de gens pensent qu'elles font déjà. Elles ne pourront octroyer des crédits qu'avec les dépôts privés qu'elles auront en disposition ou les crédits de la Banque nationale. Et elles devront supporter leurs propres risques. Le trafic des paiements ne souffrira plus du risque dit « too big to fail ». Toute banque pourra faire faillite sans endommager l'économie entière. Finalement, l'injustice la plus importante du système actuel nous touche, nous tous, clients des banques. À 90%, notre argent ne nous appartient pas à nous, mais aux banques. De ce fait, nous nous rendons dépendants de la santé des banques. Avec la monnaie pleine, cette dépendance trouvera sa fin. La monnaie pleine est la monnaie de la Banque nationale. Elle est une monnaie sûre. La monnaie pleine est la solution pour un fondement équitable de notre système financier. Avec la monnaie pleine, nous garantissons nos dépôts bancaires sans devoir sauver les banques. Dès lors, votez oui à la monnaie pleine le 10 juin.
Merci Philippe Mastrana. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, je vais appeler quelqu'un qui est un ancien directeur d'une grande banque française qui s'est rendu célèbre par son trader, aujourd'hui repenti, Jérôme Kerviel. Donc, c'est un ancien directeur de la Société Générale, Christian Gomez.
J'étais directeur de la Société Générale Suisse, mais auparavant j'étais professeur d'économie avant de rejoindre le secteur bancaire. J'étais professeur d'économie et j'ai eu pour professeur le professeur Maurice Allais. On se rencontre avec Philippe sur ce point.
Oui, voilà.
Alors, oui. Alors, comme vient de le rappeler Philippe Bastonardi, il y a beaucoup de malentendus sur cette réforme monétaire et des malentendus souvent entretenus et répandus par nos adversaires pour devenir, il faut bien le dire aujourd'hui, ce qu'on appelle des fake news. Vous les connaissez, ces soi-disant malentendus. La réforme serait dangereuse pour la Suisse, elle entraînerait des convulsions économiques. Elle engendrerait la pénurie de crédit et ferait monter les taux d'intérêt, asphyxiant par là même la croissance. Elle soviétiserait l'économie suisse en mettant les crédits sous la coupe de la BNS, qui deviendrait une espèce de ghost bank à la soviétique. Le franc s'effondrerait. J'en passe et des meilleurs, car l'énoncé de la liste pourrait devenir fastidieuse. Nos adversaires savent bien ce qu'ils font en utilisant la stratégie de la peur. La monnaie est probablement, et je m'en aperçois encore plus qu'auparavant, un des domaines les plus mal connus de tous les milieux, heureusement y compris par eux. Et nos concitoyens ont des interrogations légitimes sur les conséquences d'une proposition qui vise à réformer un système qu'ils sentent malade et corrompu, mais qui est quand même un secteur vital pour leur vie. Donc, dans ce contexte, nos adversaires ont toute latitude pour exploiter l'ignorance. Alors, dans les quelques minutes, 10-15 minutes qui me sont imparties, cette présentation visera donc à expliquer et à dédramatiser le déroulement de la réforme qui est proposée, d'où le titre choisi qui se veut ironique pour nos adversaires, la réforme monétaire, un traumatisme pour la Suisse, vraiment ? Il est clair que la forme de cette question contient en elle-même la réponse. Il n'y a aucun traumatisme à craindre de cette réforme sous les deux angles que nous allons maintenant aborder, sa mise en œuvre et le mode de fonctionnement du système monétaire, financier et économique que cette réforme induit en régime de croisière, c'est-à-dire en temps normal. Alors, que se passera-t-il au jour J, quand viendra l'heure du passage du vieux système à la nouvelle organisation ? Est-ce que ce sera un grand chambardement ? Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord que chacun d'entre vous ait une idée claire des bilans des banques commerciales et de la Banque centrale d'aujourd'hui. Bon, au bilan des banques commerciales, tout le monde sait que... au passif, il y a toutes les exigibilités des banques, tous les engagements des banques selon leur degré d'exigibilité, depuis le capital jusqu'au passif à vue que représentent les dépôts à vue, Les dépôts à vue, c'est une dette de la banque vis-à-vis de vous, et vous avez une créance vis-à-vis de la banque. Et c'est cette dette qu'elle fait circuler comme moyen de paiement. À l'actif, vous avez le compte caisse. À l'actif, vous avez le compte caisse des banques, c'est-à-dire les réserves bancaires, par lesquelles toutes leurs transactions qu'elles font avec d'autres qu'eux-mêmes transitent, et toutes les créances sur l'économie, de quelque nature qu'elles soient. Pour la Banque centrale, on trouve les engagements de la Banque centrale, j'ai presque envie de dire les pseudo-engagements, parce que personne ne viendra demander le remboursement des billets, avec notamment pour notre objet, donc, les billets en circulation et les réserves bancaires. Vous avez les réserves bancaires là, vous les retrouvez au passif de la Banque centrale. C'est-à-dire, donc, vous avez tous les comptes de virement des banques, leurs réserves. Et à l'actif, vous avez l'ensemble des avoirs dont dispose la Banque centrale, et d'abord, bien sûr, aujourd'hui, pour la Suisse, tout ce qui est réserve de change investi en obligations et en actions. Alors, un point est important, et il est à souligner, parce qu'il va jouer un rôle plus tard, du fait des politiques menées par la BNS, les réserves bancaires sont pléthoriques, comme vous le savez, et couvrent aujourd'hui approximativement les dépôts à vue. À peu de choses près. Je regardais hier les chiffres de la BNS. Les réserves des banques suisses à la BNS représentent 470 milliards pour un PIB, je crois, autour de 650 milliards. Alors, vous savez ce que vise cette réforme ? La réforme vise à interdire aux banques d'avoir donc des dépôts de nature monétaire à leur bilan, car c'est par là qu'elles peuvent créer leur propre monnaie, et c'est de là que naissent en fait tous les problèmes des économies de marché, quasiment depuis l'origine. En lieu et place, la BNS émettra une monnaie électronique qui deviendra la seule monnaie légale utilisable dans tous les types de transactions, et cette monnaie sera détenue par les agents économiques hors du bilan des banques, comme le sont aujourd'hui d'ailleurs les comptes titres des agents économiques. Les entités qui les détiennent, comme vous le savez, pour les titres, ce sont des conservateurs, ce qu'on appelle dans le langage des banques, en anglais, ce qu'on appelle les custodians. Et dans le cadre de la réforme, donc, les banques ne joueraient plus, à travers les opérations de leur bilan, qu'un rôle de pure intermédiation financière, offrant des dépôts à terme et des titres de créance négociables de toutes échéances pour contribuer au financement de l'économie. Dans la transition au nouveau système, c'est cette transformation qu'il faut réaliser. Ce passage des dépôts à vue détenus sur le bilan des banques à cette monnaie électronique BNS détenue par les agents économiques dans leur portefeuille électronique qu'elles ont chez les custodians, exactement comme les billets le sont dans les portefeuilles que vous avez avec vous ou dans vos coffres-forts. Alors, cette comparaison avec les billets est pertinente. Car qu'est-ce que la monnaie électronique BNS ? Eh bien, la monnaie électronique BNS que vous appelez monnaie pleine, en fait, leur est strictement équivalente. C'est la même chose. L'une, la monnaie électronique, n'étant que la forme dématérialisée de l'autre, les billets. Alors, je voudrais que vous compreniez bien qu'on fasse un espèce d'exercice mental. Il suffit de faire, comme exercice, il suffit de supposer que la réforme que nous vous proposons ne vise pas à faire un pas en avant, mais un pas en arrière, en faisant des billets la seule monnaie légale, comme le voulaient nos ancêtres, ou nos aïeux plutôt, de 1891. Que se passerait-il si la réforme était, on transforme la seule monnaie légale demain, ce sont les billets. Eh bien, les agents économiques demanderaient à leur banque le changement de tout ou partie de leur dépôt à vue en billets pour pouvoir faire leurs transactions. Deuxièmement, les banques. Que feraient les banques? Elles iraient les acheter à la BNF en utilisant leurs réserves bancaires. Et donc en les payant avec leurs réserves. Troisièmement, elles remettaient à leurs clients ces billets en débitant, bien sûr, leur dépôt à vue. Donc, on aurait un système par lequel les billets en circulation augmenteraient, les réserves bancaires diminueraient, de même que les dépôts à vue. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques nuances et quelques subtilités, mais qui ne sont pas intéressantes dans le cadre de notre raisonnement. Eh bien, ce qui devrait se passer avec la monnaie électronique est absolument la même chose, mais sous une forme numérique. Les agents économiques, vous, moi, les entreprises, une entreprise, ouvriraient des comptes hors bilan en monnaie BNS. Ça, c'est le premier stade. Deuxième stade, ils choisiraient le montant de leur dépôt qu'ils veulent détenir en monnaie, soit en monnaie électronique en vue de leur transaction, soit en instrument d'épargne pour les opérations qu'ils envisagent de faire dans l'avenir ou pour faire un placement. Troisième stade, ils demanderaient à leur banque de faire virer leur dépôt de nature monétaire sur les comptes hors bilan en monnaie BNS, c'est-à-dire que les banques seraient requises de payer immédiatement leur dette à vue dans une autre monnaie que la leur. Et quatrième stade, pour opérer ce transfert, les banques utiliseraient, comme pour les billets, les réserves dont elles disposent ou qu'elles pourraient emprunter, la banque centrale étant là pour faire en sorte que le processus se passe sans accroc. Et vous savez qu'en Suisse, comme il y a pléthore de réserves que je rappelais, c'est sans doute cette voie-là qui sera la plus utilisée. Ça va ? Donc, à l'issue de ce processus, que verrons-nous ? Nous verrons les agents... Oh, pardon. J'ai un problème avec le viseur. Les agents économiques ont, sur leur compte, chez les custodians, leur monnaie qui remplace leur dépôt à vue. Les banques ont perdu leur dépôt à vue, mais comme elles ont dû rembourser leur passif à vue, leur réserve pléthorique ont diminué. La banque centrale voit arriver, donc la monnaie et la banque centrale remplace donc les réserves bancaires par la monnaie électronique à son bilan. Les réserves bancaires donc diminuent et la monnaie électronique augmente et elle a exactement le même statut que les billets de banque en circulation. Alors, du point de vue des conséquences du processus de transition sur les acteurs économiques, que peut-on dire? Eh bien, pour les détenteurs d'encaisses monétaires, aucun changement. Ils utilisent la monnaie électronique comme ils utilisaient hier leur dépôt à vue. Concernant le financement de l'économie proprement dit et l'équilibre des marchés financiers, aucun impact significatif. Pour la banque centrale, c'est un simple jeu d'écriture au niveau du passif de son bilan. Et pour les banques, et ça c'est peut-être ce qui vous en aura peut-être le plus, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'il n'y a au tangi du transfert, aucune rupture dans leurs conditions d'exploitation, et je dirais au contraire. Il n'y a aucun changement dans les actifs rentables. Par contre, le coût des réserves excédentaires est éliminé. Alors, vous savez que les banques payent sur leurs réserves à la banque centrale un taux d'intérêt négatif sur une portion de leurs réserves. et la gestion des moyens de paiement est externalisée. Voilà. Ce sont les conséquences au niveau de la pratique des différents agents économiques. Mais alors, me direz-vous, s'il en est ainsi, qu'est-ce que ça change ? À quoi ça sert, ce changement ? Ben, ça change tout. Ça sert à changer fondamentalement le système. Les banques ne peuvent plus créer les moyens de paiement en émettant des dettes sur elles-mêmes. Donc c'est un facteur d'instabilité considérable qui disparaît. Deuxièmement, la condition sine qua non, si on veut un jour éliminer la banque casino, de toute façon, la réforme monétaire qui est proposée est une condition sine qua non. Il faut passer par là, en tout état de cause. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, les circuits des paiements et de crédit sont déconnectés. Ce qui veut dire que les crises, les risques de crise systémique sont éradiqués. Donc, la sécurité sur le circuit des paiements la sécurité de l'ensemble du système financier se trouve considérablement renforcée. Rien à voir avec l'assurance de 3, 6 milliards sur les dépôts à 100 000. Là, vous avez quasiment une assurance sur les 500 milliards que représentent les dépôts à vue, ce qui est quand même un point important. Et, vous savez que j'ai une petite tendance libérale, il y a, par cette réforme, un rétablissement du fonctionnement efficace du marché des capitaux, sur lesquels il n'y a aucun risque, je dis bien aucun risque, je regarde droit dans les yeux n'importe quel économiste qui soutiendrait le contraire, il n'y a aucun risque d'insuffisance d'épargne. Troisièmement, la BNS, au nom de la collectivité suisse, reprend le contrôle total de l'offre de monnaie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Une plus grande régularité de la croissance monétaire et donc de la croissance du revenu nominal. Une plus grande efficacité de la politique monétaire, de la politique monétaire et économique, et la récupération par le peuple suisse de ce qu'on appelle la rente monétaire. Donc, si on devait résumer le processus de transition, il y aurait trois idées fondamentales à retenir, au-delà des peurs simulées de nos adversaires, des adversaires de l'initiative. C'est d'abord un travail d'informaticien et de juriste. Des perturbations insignifiantes sur les pratiques des acteurs économiques et sur le compte d'exploitation des banques. Mais, bien entendu, une transformation pour l'avenir, une transformation fondamentale du fonctionnement du système financier et donc économique. Voilà pour le jour J. Mais qu'adviendra-t-il ensuite, quand il faudra que le système fonctionne en continu ? Allons-nous vers des tempêtes à répétition, les 40e rugissant, ou allons-nous vers un avenir à la Suisse, calme, mesuré et contrôlé ? La pièce essentielle de la nouvelle organisation est bien sûr la BNS. Dont le rôle directeur dans la régulation économique en Suisse est confirmé dans un cadre renouvelé. Concernant les deux premiers points, que vous voyez, l'indépendance et les objectifs constitutionnellement définis, Philippe en a beaucoup, beaucoup parlé et très bien parlé, donc je n'y reviendrai pas. J'insisterai sur le troisième point, pour affirmer que loin de se trouver démunis en matière de politique monétaire, la BNS voit au contraire ses moyens renforcés pour s'adapter à toutes les circonstances susceptibles de survenir. Ça, c'est un point très important. On ne sait jamais ce que sera l'avenir. Ils seront donc multiples, apport direct au budget public, prêts de liquidité aux banques, intervention sur le marché monétaire. Et, à mon sens, je parle là, pour le coup, sur cet aspect en mon nom, ces modes d'intervention devraient obéir à trois critères. Certitude de leur impact, c'est-à-dire si la monnaie est injectée, il faut absolument qu'elle soit dépensée. Il ne faut pas qu'elle soit thésaurisée quelque part. Une non-automaticité, il faut qu'elle soit modulable, qui pourrait aller jusqu'à la réversibilité, au moins partielle, des apports. Alors, il est clair que, compte tenu de ce qu'il est projeté de faire dans le cadre de cette réforme, les apports au budget, à la Confédération et au canton devraient devenir le mode d'injection primordial pour réguler la croissance de la masse monétaire et donc la croissance du revenu nominal en longue période. Grosso modo, cela revient à une injection, en tout cas pour la première année et les années suivantes, à une injection de l'ordre de 15 milliards par an. Ça dépend bien sûr de la base à partir de laquelle on part, c'est-à-dire au jour J, les ménages font choisir le montant de la masse monétaire transactionnelle qu'ils désirent, et à partir de là, on calculera. À partir de là, s'incrémentera les 3,5% par an. Alors, je tiens à dire que cette injection, c'est en fait la rente monétaire. Et cette rente monétaire ne correspond en rien à une manne qui tomberait du ciel, comme certains le disent à longueur d'article, mais à la captation par la collectivité d'une valeur qui, de toute façon, aurait dérivé de la création monétaire des banques au cours du temps, sur une très longue période. Mais c'est exactement c'est la valeur qui aurait été créée en longue période lorsque les prêts sont indéfiniment renouvelés. La démonstration est chez Maurice Allais, hein, pour ceux qui le souhaiteraient. Et ce serait au peuple suisse, bien sûr, de décider de l'affectation de ce bénéfice par la réduction, soit une réduction d'impôts, soit une augmentation des dépenses publiques. Alors je tiens à le répéter et à le souligner, cet apport n'a rien à voir avec ce que certains appellent la planche à billets. Mais il correspond à la réappropriation d'une rente collective, et en tant que tel, il doit faire l'objet d'un véritable contrat social avec les citoyens. Résultat de la réforme monétaire, ce nouveau bénéfice sera délivré, et en plus inscrit dans la Constitution, sera délivré en longue période, en moyenne de cycle, disons, en moyenne sur un cycle, mais éventuellement, il pourra faire l'objet de variations pour préserver l'équilibre monétaire et le bien commun de tous en toutes circonstances. Et face à des variations possibles de cet apport, ce sera aux instances politiques de choisir entre les deux instruments possibles de gestion de l'équilibre budgétaire, l'emprunt ou l'augmentation des impôts, en fonction de l'évolution de la situation et de la longueur attendue de la période de restriction. Dans tous les cas, si vous réfléchissez bien, leurs actions joueront de concert avec l'orientation de la politique monétaire et accéléreront le processus de rééquilibrage. Alors, il semble que l'action de cette nouvelle monnaie injectée ne soit pas clairement perçue, contrairement à la création monétaire directe par le crédit bancaire, par exemple. D'où les interrogations sur la possibilité de financer par l'épargne vraie les investissements. Alors là, laissez-moi faire une incidente. C'est un problème qui, normalement, pour un économiste, ne se pose pas. Parce qu'en fait, il n'est pas croyable de financer des investissements en longue période sur la monnaie, au contraire de l'épargne. Ça s'appelle l'épargne forcée, mais ça, c'est un autre problème. En fait, la monnaie injectée, si vous réfléchissez bien, en fait, la monnaie injectée intervient comme une subvention qui va se substituer, dans le cas présent, à des impôts qui pourront être abaissés. Et cela entraîne, ipso facto, à dépenses publiques constantes, une hausse du revenu disponible des ménages ou des entreprises, d'où des dépenses et des placements supplémentaires qui vont se diffuser dans l'économie. La résultante sera une hausse, une augmentation du revenu qui entraînera une augmentation de l'épargne, et c'est cette augmentation de l'épargne qui va financer l'investissement et les placements, soit directement à travers l'autofinancement ou les placements sur les marchés financiers directement, soit par le biais des banques pour la finance, ce qu'on appelle la finance intermédiaire. Ce sont les points qui sont rappelés sur le slide suivant, qui compare en fait la manière de fonctionner du système actuel et du système que nous souhaitons mettre en place. Et j'ai intitulé ça la supériorité intrinsèque de la réforme monnaie pleine. On ne va pas faire le détail parce que je vais dépasser mon temps.
C'est déjà fait, si je peux me permettre.
Oui, de combien? Bon, ça y est, j'ai pratiquement fini.
N'importe, allez-y, on finit.
Par exemple, dans le cadre de la réforme, le mode d'injection que nous venons de voir est le plus neutre possible. C'est-à-dire qu'il ne distord pas l'allocation des ressources. Or, dans le système actuel, compte tenu des contraintes de Bâle III, par exemple, et de ce qu'on appelle les pondérations de risque, il y a une convergence pour pousser la création monétaire vers les crédits hypothécaires. L'action est totalement directe sur le circuit économique pour un réglage optimal de la conjoncture. Or, que se passe-t-il dans le système aujourd'hui? Tout se passe à travers des modifications du taux directeur, et ensuite on attend de voir ce qui se passe. Les agents économiques peuvent répondre par une modification de la courbe des taux, qui peut aller dans le sens inverse de ce que veulent les autorités monétaires. Ensuite, il y a la réaction hypothétique des agents économiques face à la réduction éventuelle du taux d'intérêt ou à la croissance des taux d'intérêt. Ça peut être extrêmement aléatoire, et c'est le plus souvent aléatoire.
Erratique.
Un meilleur contrôle et une plus grande régularité de l'offre de monnaie, je m'arrêterai là, alors que l'offre de monnaie dans notre système dépend tout à fait des humeurs de ceux qui veulent prêter et ou de ceux qui veulent emprunter. Alors, j'arrive quasiment à mon dernier slide, mais c'est mon dernier slide, vous allez comprendre. Je voudrais m'adresser aux partisans de la réforme pour leur dire: vous ne devez pas avoir peur. Parce que, j'ai envie de dire, sans acrimonie particulière, bien sûr, qui n'aurait pas lieu d'être, leur système est condamné. Il a failli en dépit de tous les rafistolages pour le maîtriser. 10 ans après la crise de 2008, nul ne peut dire comment sortir sans casse des mesures prises pour éviter la catastrophe. C'est un système au fonctionnement de plus en plus bureaucratique et coûteux. Et que vous opposent véritablement les défenseurs de ce système? Je ne sais pas si vous connaissez... Vous connaissez tous Voltaire, vous connaissez tous Candide, vous connaissez le docteur Pangloss, qui est en fait la caricature du philosophe Leibniz. Et qu'est-ce qu'il trouve à vous dire? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Comme le docteur Pangloss, après la catastrophe de Lisbonne, ou après les multiples viols de mademoiselle Cunégonde. Donc, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, l'avenir vous appartient. Votre projet répond aux problèmes de notre temps. Il immunise le secteur monétaire et financier contre tout risque systémique. Donc, il apporte la sécurité. Il permet une meilleure régulation économique par un contrôle total de la masse monétaire. Dans une époque où on se pose des questions sur l'évolution de la productivité, il fait jouer aux taux d'intérêt leur rôle pour une plus grande efficacité de l'économie dans l'allocation des ressources. Et il assure l'équité en rendant aux citoyens la rente monétaire accaparée par les banques. Et votre projet, et ce dont vous devez être convaincu, c'est que votre projet tient la route, car il a été pensé par les plus grands économistes de tous les temps, dont je vous donne ici, je vous présente quelques photos. Vous êtes porté par une tradition qui est une des plus glorieuses de la pensée économique. Alors, je vais terminer là-dessus.
Allez-y. Oui.
Alors, certains se demandent si la question posée dans une initiative populaire n'est pas trop complexe. Je discutais avec un journaliste hier, évidemment, qui me disait que c'est sans doute la question la plus difficile qui a été posée dans un référendum d'initiative populaire. Elle est compliquée, en effet. Mais je dois dire qu'elle n'est pas plus compliquée que celle qui a été posée à vos aïeux en 1891. Car en fait, c'est la même, exactement la même. La création monétaire peut-elle être soumise au bon vouloir d'intérêts et de caprices privés alors que le bien commun est en cause? C'est à cette question que vous devez répondre le 10 juin. J'espère que vous aurez le même courage que vos aînés et que vous saurez faire fi de tous les agitateurs de chiffon rouge que nos adversaires agitent pour vous faire peur, et en vous éloignant du vote pour la monnaie pleine, protéger en fait leurs propres intérêts. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Christian Gomez. Nous allons encore avoir deux interventions avant la pause. On a un petit peu de retard, comme vous avez pu le comprendre, mais c'est pas grave. J'espère que vous passez un bon moment.
Simon Robert pour l'association La Grue, monnaie locale complémentaire dans les Préalpes.
Les monnaies locales ne sont pas une solution à tout. Comme la monnaie pleine n'est pas non plus une solution à tout. Mais ensemble, c'est un premier bon pas vers la bonne direction. Pour justement mettre à nouveau une monnaie au service du peuple et pas au contraire comme c'est maintenant. On sait que demain, le visage des monnaies, ça sera très diversifié. On aura des monnaies virtuelles qui s'annoncent déjà spéculatives, on ne sait pas d'où ça va. On aura, on espère, une monnaie à cours légal, toute la Suisse. Mais on aura aussi des monnaies locales. Justement, il faut comprendre que l'homme a beaucoup copié la nature. Et c'est bien aussi de copier la nature pour l'économie. La biodiversité en différentes réseaux. On a une monnaie nationale et puis des petits cercles monnaie locale. En cas de défi économique, il y aura plus de transactions, plus d'économies réelles avec les monnaies locales. Ça, c'est un point important pour avoir plus de renforcement dans les régions et puis pour toute une société. Justement, les vraies conséquences de la dernière crise financière, comme l'a dit l'autre, le monsieur avant, ne sont pas tirées, puis ils ne viendront pas de la politique, ils ne viendront pas d'en haut. Les solutions viendront vraiment du peuple, de la base. Avec les monnaies locales, on a aussi la possibilité de réveiller et toucher beaucoup de personnes sensibilisées, mais dans un petit rayon, de parler du vrai rôle de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? On en parle aussi beaucoup aujourd'hui, mais comme ça, on peut vraiment aller des voisins, dans les régions, et de nos fournisseurs. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'on doit vraiment nouveau venir penser global, mais vraiment agir local, consommer local, ou payer local, mais à différents niveaux. C'était rigolo, j'avais une bonne discussion avec un banquier, il n'y a pas si longtemps, sur la monnaie pleine, sur les monnaies locales, et puis il me disait, je ne crois pas que c'est une bonne idée de se mélanger les choses. C'est les banquiers qui doivent gérer l'argent, c'est leur affaire, il ne faut pas se mélanger des choses. Et puis, je trouvais ça chouette, je dis, ah ben, quand je fais une maison, je fais de la construction. Quand je fais une maison, puis je veux faire une maison saine, je vais utiliser du bois de la région, des isolations en laine de mouton, par exemple. Ben, tout de suite, le prix joue un rôle. On n'est pas libre de choisir ce qu'on veut, qui est bien et durable. Tout de suite, la finance mêle les affaires dans notre économie réelle. Ben, c'est vrai, c'est vraiment comme ça. Donc chacun se mêle ces choses. Que la Banque nationale crée la monnaie, que les banques privées fassent les crédits, les hypothèques, et puis on a une économie réelle de proximité. De toute façon, il faut une énorme énergie de maintenir les mensonges en place. Ça, on sait tous. Mais la vérité, elle monte tout seul. Toujours. Et puis la prise de conscience, elle monte. On est tous liés, les hommes, la nature, les animaux. On a besoin de tout le monde. Pour cela, c'est bien de voir tout ce monde ici réuni. On a différentes visions, différentes idées, mais à la fin, on se complète tous ensemble. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup Simon, c'était très très bien. Pour finir avant la pause, on va accueillir notre ami Mathieu Despons qui a animé le jeu de la monnaie avec moi ce matin. Qui est membre des AAA+, et aussi de l'association, c'est une association bien, qui est à l'origine du RBI, sur lequel on a voté il y a 2 ans maintenant, en juin 2016. Alors, Mathieu Despons.
Voilà. Alors, rebonjour à ceux avec qui on est déjà là ce matin, bonjour aux autres. Et donc, effectivement, il y a 2 ans exactement, ben, dans la même tranche de votation du mois de juin, il y avait la votation sur le revenu de base inconditionnel. Et puis ben là, on m'a demandé de faire un petit peu le lien, parce qu'effectivement, il y a un lien. Et déjà, dès le début, pendant la votation, moi, j'ai fait pas mal de conférences, et à chaque fois, la grande question sur le revenu de base, c'était comment on va financer tout ça? Alors, tout de suite, il y a les petites voix qui venaient, qui disaient « il y a monnaie pleine ». Bon, alors, on s'est posé la question, on a creusé un peu. En fait, c'est vachement compliqué à répondre, hein. Parce que monnaie pleine, c'est un projet assez complexe, comme on l'a dit. Le revenu de base, c'est aussi quelque chose de complexe, parce qu'il peut y avoir plusieurs sortes de revenus de base. Et puis, il y a des gens qui disent que c'est de l'argent en plus pour tous, puis des gens qui disent qu'il suffit de changer le nom de la première tranche du revenu de chacun, et puis c'est déjà un revenu de base. Donc, à savoir déjà comment ça coûte, c'est difficile de savoir. Et savoir si monnaie pleine peut aussi nous ramener un peu de monnaie pour financer le revenu de base, c'est encore plus dur. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, il faut un équilibre entre les biens et les services et la monnaie. Et c'est comme ça que ça marche mieux. Donc on peut se dire que ce qui est à disposition, c'est la croissance du PIB chaque année. Ça peut être quelque chose de garanti comme monnaie à redistribuer pour financer quelque chose. Et ça, c'est justement ce que propose Monnaie Pleine, de le donner directement. C'est une possibilité de le donner directement aux citoyens. Canton et Confédération aussi, et Monnaie Pleine propose directement aux citoyens. Donc là, il y a aussi un lien qui rejoint l'idée du revenu de base, et c'est en ça que je trouve intéressant de faire un lien, parce que finalement, je trouve qu'il y a une certaine logique dans le temps, parce qu'à une époque, on va en parler de seigneuriage, le seigneur, c'est celui qui avait un peu sa tête sur les faces des monnaies. Enfin, pour la petite anecdote, en Suisse, les premières pièces de monnaie que les archéologues ont retrouvées, c'est les pièces d'or à l'effigie de Philippe II de Macédoine, donc le père d'Alexandre le Grand. Et ça, c'est les premiers souverains de Suisse, probablement pas, mais ils copiaient ce qui se faisait à l'autre bout, et ça circulait déjà pas mal. Donc ça, c'est un peu le payeur en dernier recours, et c'est la personne à qui appartient cette monnaie. Donc on a vu dans le jeu de la monnaie ce matin que l'impôt sert à faire revenir la monnaie que le seigneur a émis. Et donc c'est lui qui profite de ce pouvoir de seigneuriage, le pouvoir de la création de monnaie. Et puis, gentiment, ben, on a transformé ces États un peu totalitaires en États plus démocratiques. Donc, à la place d'avoir la tête d'un souverain quelconque, on s'est mis à avoir une effigie. Alors, effectivement, sur les pièces suisses, ben, y a Dame Helvetia. D'ailleurs, sur les panneaux de monnaie pleine ici. Et Dame Helvetia, ben, tout d'un coup, c'est l'État en général. Puis après, tout d'un coup, il y a encore eu les banquiers qui se sont un peu appropriés le truc. Donc on a commencé à démocratiser plus large. Il y a des groupes d'intérêts. Le Conseil fédéral nous dit que la monnaie, c'est un business comme un autre. Sauf que comme quand j'ouvre un restaurant, il y a des règles, parce qu'il y a le service d'hygiène, et ben là, il y a la FINMA qui nous dit les règles et si on les respecte. Donc là, on démocratise une partie. Et je pense que maintenant, Il est temps de démocratiser un peu plus loin et que chacun devienne co-créateur de la monnaie. Chacun peut avoir sa part de création monétaire. Alors c'est ce qu'on a fait ce matin dans le quatrième jeu du jeu de la monnaie. Vous avez tous reçu une feuille sur laquelle il y avait une ligne d'équilibre. Et la partie que vous aviez au-dessous de la ligne, les 6 à disposition pour acheter jusqu'à 6 cartes, c'est en fait la création monétaire que chacun a à disposition. Donc au lieu d'avoir le système actuel dans lequel on naît avec des dettes, on pourra naître avec, chaque fois que quelqu'un arrive, hop, il reçoit sa feuille, son nouveau porte-monnaie, il a un potentiel de crédit qui est à disposition, donc c'est sa part de création monétaire qui l'amène dans le système. Alors ce genre de système, ça existe déjà, par exemple avec la JUN, qui est la nouvelle monnaie, fait partie du monnaie libre selon la théorie relative de la monnaie. Alors c'est pas forcément parfait, mais en tout cas ça existe, on est déjà plusieurs co-créateurs de cette monnaie dans cette salle, donc c'est très intéressant. Et puis le quatrième jeu auquel on a joué ce matin, c'est le système monétaire équilibré, donc ça aussi, une de mes solutions préférées, qui nous permettrait de créer un revenu de base avec ça aussi. Parce qu'on a joué avec une petite astuce, avec une fonte, une oxydation qui permettait de faire fondre la dette et faire fondre les avoirs et en même temps. Et ça, ça permettait de créer un revenu de base. Donc à mon avis, la création monétaire est intrinsèquement liée à ce qu'on appelle revenu de base, comment le créer. Mais le chemin est peut-être encore loin ou totalement alternatif, comme avec la JUN. Et puis monnaie pleine, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive avec une proposition de faire un lien entre une distribution directe aux personnes de la nouvelle création monétaire. Et ça, il me semble que c'est encore assez inédit, en tout cas à cette large échelle qu'on en discute. Alors, je sais que M. Roth, ça lui fait hérisser les poils, vous expliquerez votre point de vue, mais je trouve que quand c'est juste aux individus et pas forcément l'État qui jouerait avec la planche à billets, ça devient très intéressant et à mon avis, les risques sont moindres qu'on manipule tout ça. Et ça, c'est intéressant après de savoir qu'est-ce que ça change concrètement. Là, on est dans une économie de la rareté maintenant, parce que la monnaie qui est créée majoritairement avec du crédit, il faut en rendre plus et avec des intérêts. Et après, on n'est pas sûr que ces intérêts ils reviennent dans l'économie réelle, directe. Et donc, c'est une économie qui organise la rareté. On doit se battre, comme on l'a vu ce matin pendant le jeu de la monnaie, il faut vraiment se battre. C'est un des moments où la monnaie dette, on était mal à l'aise. La plupart des gens n'ont pas aimé parce qu'ils ont dû courir et ils étaient mal à l'aise. Donc, si on change, on va vers une économie plutôt de l'abondance. Là, ça change tout. Et puis, je pense que si on a l'assurance d'avoir toujours des liquidités à disposition, de recevoir régulièrement quelque chose, ça augmente sa confiance d'avoir un avenir possible, d'avoir toujours quelque chose à disposition pour vivre. Et puis, je terminerai par une petite métaphore à propos de liquidité. La Suisse, vous savez qu'on est le château de l'eau de l'Europe, le château d'eau d'Europe, parce qu'il y a des lacs, il y a des glaciers, il y a pas mal de pluie. Et puis, est-ce que les Suisses se posent la question de savoir s'ils ont toujours de l'eau au robinet? Est-ce qu'ils font des réserves? Parce qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui ont des réserves d'eau et qui vont vérifier tous les jours qu'il y a vraiment de l'eau. Et c'est un peu ce qu'on fait avec son compte en banque. Est-ce que j'aurai assez d'argent pour faire ce que j'ai envie? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour vivre? Ou dès que j'en ai, je capitalise, je le mets sur un compte et puis j'espère qu'il ne va pas disparaître trop vite. Et je compte tout le temps. Alors que si on est sûr d'avoir des liquidités qui viennent régulièrement, et là, tout d'un coup, c'est une logique de confiance qui vient. Donc maintenant, on peut prendre conscience de ça. Puis prochainement, avec une logique, tout ça, on pourra prendre confiance. On est dans une économie d'abondance qui a tout ce qu'il faut et puis qu'avec ça, on peut vivre correctement. Voilà, j'ai terminé.
Bravo. Merci beaucoup, Mathieu.